France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et notre invité ce matin est Florian Noack. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Pianiste, votre septième disque déjà vient de paraître vendredi.
Mais oui.
Il est consacré à Prokofiev, c'est le label Dolce Volta. C'est quoi un disque pour vous ?
Oh, ça dépend de chaque disque en fait. Certains disques, c'est l'occasion juste d'enregistrer une œuvre qui a jamais été faite. Et donc c'est une sorte.
Ça, vous l'avez beaucoup fait. On en parlera tout à l'heure.
Voilà, c'était ce que j'ai fait principalement. Et puis parfois, ici c'était vraiment l'idée pour moi de faire un portrait d'un compositeur simplement. Un portrait un peu à travers mes filtres et ma manière de le voir. Donc voilà, c'était tout simplement.
7 disques à 29 ans, c'est beaucoup.
Mais oui. C'est vrai, mais en même temps, il y a tellement de répertoires, tellement de belles choses et de choses à découvrir que voilà.
Et là, vous nous faites découvrir ou réentendre Prokofiev avec des pièces connues et d'autres beaucoup moins, comme ces études pour piano opus 2. Opus 2, ça veut dire que c'est le très jeune Prokofiev ?
Oui, tout à fait. En fait, donc son opus 1, c'est une sonate en fa mineur, sa première sonate, qui est encore tout entachée de romantisme et qui ressemble assez peu à ce que Prokofiev nous donnera par la suite. Et l'opus 2, c'est celui où il se révèle en fait d'une certaine manière, on y trouve déjà un peu plus sa marque, de manière assez fracassante, et visiblement c'était un opus qui a fait un peu fureur à l'époque, au moment de sa création. Et moi je le trouve extrêmement attachant parce que c'est un Prokofiev qui est à la fois très percussif, qui traite le piano.
Comme assez souvent.
Oui, comme assez souvent, mais avec toujours un fond de romantisme, puis à la deuxième étude qui a un côté un peu ballet, il y a quelque chose de toujours féerique avec Prokofiev, et ça je trouve que c'est déjà présent dans ses études.
Cette première étude opus 2, la voici sous les doigts de Florian Noack, premier extrait de ce disque paru vendredi chez la Dolce Volta. Allegro, première des 4 études opus 2 de Serge Prokofiev par vous, Florian Noack, extrait de votre nouveau disque, superbe, magnifique, consacré à Prokofiev, chez la Dolce Volta. Ce compositeur, vous vous souvenez quand vous l'avez découvert ?
Mais plus ou moins étant adolescent, et je pense que c'était un âge où je pouvais être assez réceptif à ce genre de musique, et notamment avec son deuxième concerto pour piano, qui est un petit peu dans la lignée d'ailleurs de ses études, alors c'est un peu plus mûr comme œuvre, c'est son opus 16. Mais c'est une œuvre encore où voilà, il y a ce Prokofiev à la fois radical et à la fois, c'est souvent son paradoxe, un petit peu conservateur d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça peut être très percussif est très dissonant, mais a toujours un fond de lyrisme, un fond de tonalité qui n'est jamais remis en question. Et en fait, bon, étant belge, en Belgique, il y a le concours Reine-Elisabeth qui est une institution. Et donc, en finale, on suit toujours ça, évidemment.
À la télé, évidemment.
Et donc là, j'avais 13 ans et il y a eu une version assez spectaculaire, je trouvais, du deuxième concerto de Prokofiev. Et c'est une œuvre qui m'a vraiment accompagné pendant quelques années. Et donc, comme ça, il y a une assez longue phase Prokofiev. Et puis, c'est un compositeur que j'ai un petit peu laissé de côté. La vie s'est dirigée vers d'autres univers musicaux. Et en fait, assez récemment, en continuant à écouter sa musique, j'ai découvert de plus en plus de facettes à ce compositeur, justement. Des visages qui formaient un portrait plus riche que ce que j'imaginais de prime abord. Et ça a été un peu l'objet du disque, justement, de mettre quatre cycles qui font, je trouve, un panorama assez complet de ce compositeur.
Et donc ces quatre cycles, ce sont ces quatre études dont on entendait un extrait, les visions fugitives, les contes de la vieille grand-mère, on en parlera tout à l'heure, et puis la sixième sonate. Vous disiez que pendant plusieurs années, Florian Noack, vous avez fait quelques pas de côté, vous avez notamment beaucoup transcrit, arrangé, et puis vous avez, c'est presque un peu votre marque de fabrique, vous avez été vers des œuvres rares, des répertoires méconnus, notamment à la lecture d'un livre de Guy Sacre, la musique de piano. Et puis quand on ouvre le livret de ce disque, on découvre quelque chose d'assez étonnant et de très sincère et de très rare, je trouve, dans la bouche ou dans la plume d'un musicien. Vous dites que ce projet, derrière ces œuvres rares, violemment personnelles, transcription, l'interprète, donc vous, se cache en espérant qu'on ne le remarque pas trop, peut-être. Était-ce le temps d'enregistrer un disque qui ne se caractérise pas essentiellement par sa singularité? Je trouve ça très franc et sincère de dire ça, parce qu'il y a beaucoup de musiciens, en effet, qui, pour se faire remarquer, vont plutôt enregistrer, jouer des répertoires rares, parce qu'il y a des histoires à raconter, et que quand on joue pour la millième fois les sonates de Beethoven, bah, y a du monde derrière. Et pourquoi vous le dites comme ça?
Mais parce que c'est assez sincère. Bon, effectivement, toutes ces œuvres plus rares que j'ai enregistrées, ça n'a jamais été par goût de me démarquer, mais vraiment par intérêt et par idéal, parce que c'était des œuvres qui m'émerveillaient, et je me disais, mais enfin, il faut absolument qu'il y ait au moins une version qui existe, et peut-être davantage. Alors c'est sûr que c'est plus difficile, effectivement, de parler d'un projet en apparence plus classique, comme celui d'un Prokofiev. Et effectivement, c'est aussi... ça peut être intimidant, d'une certaine manière aussi, de se dire, bon voilà, là je fais quelque chose qui a déjà été fait, partiellement, par les plus grands. Et donc, parce que moi, c'est évidemment une question que je me pose à chaque fois au moment de faire un disque. Et d'ailleurs, si j'ai pas la réponse à cette question, je ne le ferai pas. C'est de me dire, tiens, qu'est-ce que ce disque va apporter?
Alors, dans c'est le cadre... vertigineux.
Mais oui, parce que surtout maintenant, tout on garde tout, on a accès à des archives sonores et immenses. Et donc ici, voilà, c'est vrai que dans un disque, je me dis toujours, et voilà, il faut apporter quelque chose qui me semble devoir encore être dit ou être fait, que je ne connais pas à ma connaissance. Alors dans le cas de répertoire rare, c'est évident. Dans le cas de Prokofiev, c'est plus complexe, mais pour moi, il me semblait aussi avoir certaines idées musicales ou une certaine vision de ces pièces que j'ai pas trouvé ailleurs et qui, je trouve, avait le mérite d'exister. Et donc... Donc voilà, pour moi c'était assez naturel parce que c'est un compositeur où je sens, ou en tout cas des œuvres où je sentais qu'il y avait la place pour ajouter une version différente. Et une version différente, c'est une relecture de l'œuvre, donc c'est pas si anodin en fait.
Florian Noack, d'où vient ce goût pour les transcriptions, les arrangements?
Mais disons qu'il y a, je crois que l'origine c'est le plaisir. En fait non, l'origine c'est la frustration de pas pouvoir jouer quelque chose qu'on aime. On entend une mélodie qu'on trouve magnifique et c'est un peu dommage, on peut pas la jouer.
C'est une bonne raison.
Mais voilà. Et puis après donc ça je pense c'est ce qui expliquait que déjà quand j'avais 12-13 ans, je bricolais des petits arrangements, mais qui avait aucune vocation à être joué en concert, c'est juste pour moi. Et puis il y a une période où j'ai un petit peu essayé la composition, mais très vaguement et de manière, sans aucune prétention, vers 15-16 ans. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'aimais beaucoup travailler l'écriture pianistique, en fait. Essayer de mettre au point des textures un peu inédites, de trouver des nouvelles manières, des nouvelles combinaisons à explorer avec les 10 doigts. Et en fait, assez naturellement, m'est revenue l'idée d'essayer d'expérimenter ça, mais avec un matériau connu, un matériau dont la qualité n'est pas démontrée, disons. Et donc, je me suis attaqué à Roméo et Juliette de Tchaïkovski. Et donc ça, c'était une transcription un peu plus ambitieuse, et c'était hyper chouette, parce que c'est justement, d'une part, le bonheur de pouvoir jouer ça, et puis le bonheur aussi d'explorer son instrument, en fait. Et petit à petit, voilà, c'est devenu un jeu aussi, une sorte de redécouverte ou de création de son répertoire.
Voici Florian Noack, homme orchestre, pianiste orchestre. La scène du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, transcrit et joué par Florian Noack. C'était un précédent disque, Florian, enregistré comme ce nouveau disque Prokofiev à Wuppertal, en Allemagne, la ville de Pinabauch. On écoutait Tchaïkovski, on parlait de Prokofiev. Vous êtes passé dans la classe de Vassili Lobanov.
Absolument.
Est-ce que vous vous sentez, vous, né à Bruxelles, issu de l'école russe de piano?
D'une certaine manière. Alors, enfin, disons que Lobanov a été un professeur de piano, mais aussi bien plus que ça, c'est parce que ça a été mon prof pendant 8 ans, je pense, et quand même des années assez cruciales entre 15 et, allez, disons 22 ans, 22-23 ans. Et disons que Lobanov est aussi un compositeur, c'est un élève de composition de Schnittke, c'est aussi quelqu'un qui écrit des poèmes, qui est passionné de littérature, et il y a eu toute une partie du contact qui a aussi été une sorte de développement personnel, justement, il m'a fait découvrir plein de bouquins, plein de choses comme ça. Donc c'est sûr qu'il y a une certaine culture russe dont j'ai été un peu imprégné à travers ces années d'études, et lui-même était essentiellement un pianiste chambriste qui a joué pas mal avec Richter à deux pianos. Il a joué beaucoup avec Natalia Gutman, Yuri Bashmet, Viktor Tretiakov, Oleg Kagan, et toutes ces générations de musiciens russes. Après, je pense pas que c'est quelqu'un qui consciemment ou volontairement voulait appartenir à une école très spécifique, parce que c'est un esprit assez libre, mais naturellement il y a des racines qui ont dû se transmettre.
Vous parlez de pianiste russe, on parlait d'ailleurs tout à l'heure du deuxième concerto pour piano de Prokofiev qui a été joué par Nicolas Glouganski, qui était à votre place il y a quelques jours avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et qu'on peut réécouter sur francemusique.fr. Quelque chose de particulier quand on va écouter un pianiste russe en concert? Pour vous ? Mais vous citez que... souvent des grands pianistes russes.
C'est vrai. Disons que... Bon, j'ai l'impression... Alors moi, j'ai jamais été vraiment en Russie. J'étais dans des pays voisins, mais... Bon, on a quand même la sensation d'une tradition qui est quand même très forte, d'un jeu où certains paramètres sont extrêmement importants. La beauté du son, la mélodie, il y a toujours aussi une recherche... Enfin, c'est quand même un jeu aussi qui a une certaine... Souvent, qui a tendance à avoir une certaine intensité, et c'est des... Peut-être sans vouloir vraiment trop parler d'école, mais c'est des caractéristiques qu'on retrouve à travers un certain nombre de grands pianistes. Et puis, il y a aussi un... Ça, c'est peut-être l'influence de la langue aussi. Il y a une certaine tendance et une certaine manière à phraser aussi. Donc il y a certaines caractéristiques, mais à vrai dire, il y a beaucoup de pianistes non russes qui m'intéressent énormément aussi.
Et vos transcriptions d'ailleurs sont jouées par des grands pianistes russes comme Boris Berezovsky, je le précise. Alors ces œuvres rares dont on parlait également, que vous avez beaucoup enregistrées sur votre précédent disque, par exemple l'album d'un voyageur, est-ce que vous diriez que ce livre, la musique de piano de Guy Sacre, que vous avez découvert très jeune, est-ce que vous étiez sous son emprise, est-ce que vous vous êtes affranchi quelque part aujourd'hui?
Non, parce que je parlerai pas d'emprise ni d'affranchissement. C'est, disons que le livre est un...
C'est quoi ce livre?
Pour moi, c'est un compagnon de voyage. C'était un livre qui était sur ma table de chevet. C'est une encyclopédie passionnée et très subjective du répertoire. Et encore régulièrement, maintenant, quand je découvre des œuvres que je connaissais pas, ça m'arrive de rouvrir le livre pour voir, tiens, qu'est-ce qu'il en pense de cette œuvre-là? Et c'est comme un compagnon. Il y a une sorte de dialogue. Et bon, je sais pas, j'adore le style, je trouve ça magnifiquement bien écrit, et puis c'est très vaste aussi, donc c'est ce qui m'a fait découvrir l'essentiel de ce que je connais en fait pianistiquement, en termes de répertoire.
Lyapunov par exemple, les deux albums que vous avez enregistrés, magnifiques, consacrés à ce disciple de Balakirev, que vous avez fait découvrir à beaucoup de mélomanes.
Absolument, Lyapunov, Metner, Alcan, tout ça, ça a été des découvertes dues au dictionnaire de Guy, et d'ailleurs Guy a très gentiment signé la notice de livrer Lyapunov. Donc c'est un livre auquel moi je dois énormément.
Prokofiev est sorti vendredi, des œuvres connues, moins connues. La sixième sonate, là, c'est un gros truc.
Absolument, indéniablement.
Percussif aussi.
Oui, il y a même dans le premier mouvement un passage dans le développement où justement on frappe avec le poing sur le piano. Il y a vraiment une violence physique en fait. Après, ce qui est intéressant, moi ce qui m'a intéressé justement en revenant à cette œuvre, que j'avais pas mal joué quand j'avais 18 ans, c'était aussi d'un peu... tenter de dépasser ce qui pouvait m'y attirer à l'époque, c'est-à-dire justement peut-être un peu cette violence, cette agressivité, et ce côté un peu radical. Mais aussi maintenant, c'est vrai qu'on y revient avec un regard un peu différent, entre-temps mes priorités musicales se sont un petit peu affinées, et en fait, c'est vrai que les derniers professeurs avec lesquels j'ai travaillé m'ont aussi sensibilisé à d'autres facteurs, et ici... Alors, je parlais de structure, c'est très, 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 très général et très, très vague. Mais je cherchais aussi une approche vraiment qui soit moins quelque chose de violent en général, mais vraiment de comprendre ce qui se passe à chaque moment de l'œuvre et de trouver le geste juste et le ton juste, à mon humble avis, pour un peu essayer de révéler l'œuvre, en fait.
Alors, pas de point dans le deuxième mouvement, Allegretto, de la sixième sonate pour piano, opus 82 de Serge Prokofiev.
Thank you.
Deuxième mouvement, Allegretto de la sixième sonate de Prokofiev, opus 82. Florian Noack, vous étiez au piano. C'est votre disque, votre septième disque qui paraît chez la Dolce Volta. Cette pièce qu'on vient d'entendre, comment vous qualifieriez le caractère de ce mouvement? On parle souvent d'un... Voilà, on n'est pas dans plein sarcasme de Prokofiev, mais il y a quelque chose d'un peu grimaçant.
Oui, d'un peu détaché, d'un peu ironique. Je pense qu'il est un peu nécessaire, en fait, après la violence du premier mouvement. Et puis l'intensité du troisième mouvement, qui est une valse très lente, ralentie, un peu suspendue. Et donc, je pense que c'est un moment où, voilà, il y a une sorte, quelque chose qui persifle un petit peu, disons.
Sur les quatre cycles que vous enregistrez sur ce disque, il y a aussi des contes de la vieille grand-mère. Alors, vous aimez, vous, les contes et les légendes, vous en avez déjà enregistré. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce cycle peu connu aussi?
Mais c'est que c'est un autre visage de Prokofiev, en fait. C'est,
quand il est aux États-Unis.
Exactement, il y a cette espèce d'exil et de nostalgie, et on sent qu'il s'imprègne aussi à sa manière d'un folklore un peu imaginaire, qui rappelle parfois un petit peu Moussorski, les tableaux d'une exposition, ce genre de choses. Il y a une sorte de, je ne sais pas si ça se dit, une russité ou quelque chose en tout cas de russe.
En tout cas, on comprend.
Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très nostalgique et de très calme dans ces quatre pièces, qui me touche personnellement beaucoup.
Florian Noack, vous serez en concert le 10 octobre à Angoulême au Festival Piano en Valois, le 12 octobre en Seine-et-Marne à Cercanceaux, et puis plus tard à Montpellier le 19 janvier, à Toulon pour le Festival Les Nuits du Piano les 7 et 8 février, et enfin le 17 février à Saint-Étienne pour les prochaines dates en France. Beaucoup de concerts également en Belgique. Vous êtes belge, même si vous vivez aujourd'hui en Allemagne, non pas à Wuppertal, mais à Cologne. Pour finir, il y a ces quatre cycles sur votre disque Prokofiev, Florian Noack. On en a évoqué trois. Puis il y a cet immense cycle Les Visions Fugitives, 20 pièces qui durent une petite demi-heure, 25 minutes. C'est un cycle assez difficile à appréhender.
Moi, en fait, c'est un cycle que j'aimais pas particulièrement il y a longtemps, enfin il y a quelques années. Et je l'ai un peu redécouvert. En
moi,
fait.
C'est vous qui me l'avez fait découvrir, parce que je le connaissais, mais je connaissais des interprétations qui ne m'avaient pas séduite, et celle-ci...
En fait, j'ai écouté peu de temps avant l'enregistrement, j'ai écouté les extraits qui étaient joués par Prokofiev lui-même, et ça m'a vraiment aidé à comprendre cette musique.
Alors, 20 visions fugitives pour nous quitter, laquelle vous choisissez et pourquoi?
La huitième, elle, justement, c'est encore une autre facette de Prokofiev, un peu plus française, qui évoque un tout petit peu Poulenc. Je pense avec qui il a été un peu lié quand il est venu à Paris, si je ne me trompe pas. Et voilà, je trouve que c'est une pièce qui a beaucoup de charme et qui reste un peu en mémoire.
Huitième des 20 visions fugitives opus 22 de Serge Prokofiev. Commodo, ça veut dire commode.
Commode.
Hein, on va dire. Sous les doigts de Florian Noack, c'est son disque La Dolce Volta qui vient de paraître. Merci Florian.
Merci à vous.
Komodo, huitième des visions fugitives de Serge Prokofiev, extrait de ce disque de Florian Noack, paru chez La Dolce Volta.
À réécouter sur francemusique.fr.